Une chose qu'on ne va surtout pas se priver d'avoir, c'est la joie du Seigneur. Amen. Et c'est mon thème ce soir. Je voudrais qu'on puisse comprendre à un niveau supérieur chacun de quelle sorte d'onction nous avons été oints. Vous savez que nous sommes des oints. Nous avons été oints. Amen. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit. Jésus nous a oints de son Esprit. Et j'aimerais qu'on apprenne à mieux connaître cette onction. Et cette soirée peut nous apprendre à mieux la laisser couler dans notre vie. Hein. Ce qui caractérisait le ministère de Jésus, ben c'est ça, c'est qu'il était oint. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour quelque chose, pas pour se complaire dans l'onction, mais pour apporter de bonnes nouvelles. On est d'accord ? Donc ce soir, on a une bonne nouvelle à travers les chants, à travers ce message. Et le mot oint, c'est la traduction du mot hébreu meshia, qui n'est pas vraiment traduit, parce que ça donne messie, et du mot grec Christ, c'est la francisation, je crois qu'on peut dire comme ça, de ces mots-là. Et ouin, Christ, Messie, ça veut dire ouin, celui qui est ouin, celui qui vient avec son onction. Donc l'onction est liée donc, à l'identité, à la mission de Christ. Il importe donc d'en savoir le maximum sur cette onction. Et le mot chrétien donc, vient du mot Christ, ce qui signifie petit ouin. Nous sommes appelés à marcher sur les traces de loin des ouins, Jésus-Christ. Amen. Parfois, les gens vous disent, pourquoi tu parles de l'onction, encore de l'onction, pourquoi vous priez pour l'onction Vous savez, le mot chrétien signifie oint, donc il est indissociable, l'onction est indissociable de cette appellation, d'accord? Qui est né de nouveau un jour ici? Il est devenu un chrétien, hein, toi aussi, enfin, je ne suis pas sûr, toi. Donc vous êtes des oints, ok? Tournez-vous vers votre voisin, dites-lui, tu es un oint. Ouin. Tu as été ouin de Dieu pour marcher sur les traces de loin des ouins, Jésus-Christ. Amen. Dieu n'a jamais prévu de christianisme sans la puissance de son onction. Et pour cela, ce soir, nous voulons mieux comprendre quelle est la nature de cette onction. L'onction du Saint-Esprit permettait à Jésus et aux premiers disciples de faire des miracles, ça nous le savons tous. Maintenant, l'onction qui demeurait sur Jésus avant même qu'il fasse des miracles, qu'est-ce que c'est qui l'a caractérisé? La Bible nous dit qu'il était oint par privilège sur ses collègues, donc qui sont ses collègues ou ses compagnons selon les traductions. Bien, c'était les autres prophètes qui étaient parus avant lui. Donc il était oint d'une manière différente par rapport aux prophètes qui étaient parus avant lui. Qu'est-ce que cela signifie encore? Qu'il était oint d'une onction privilégiée, donc supérieure aux autres prophètes. Le psaume 45, 7 nous dit « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Le même verset repris dans le Nouveau Testament dans Hébreux 1.9 est traduit par « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Donc Jésus avait une onction particulière et qui était supérieure, différente de ce qui s'était vu chez les autres prophètes qui étaient parus jusque-là. Et notre problème parfois, c'est qu'on attend toujours que Dieu va refaire la même chose qu'il a faite hier, vous savez. Et Dieu, il aime changer, il aime renouveler les choses. Pour le prophète Jean-Baptiste, par exemple, qui était paru juste avant Jésus, l'efficacité de son onction était liée au fait de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. Et dès lors, certains imaginent que tout le monde doit faire la même chose pour être spirituel. Alors que Jésus, lui, il mangeait de la viande et il buvait du vin. Et les pharisiens, ils critiquaient Jean-Baptiste parce qu'il ne mangeait pas et il ne buvait pas. Ils critiquaient Jésus parce qu'il mangeait et il buvait. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire pour leur faire plaisir à cela? Il y a des gens comme ça dans l'église, souvent vous pouvez faire n'importe quoi, de toute façon ils ont décidé de vous critiquer. Donc, on ne peut pas passer sa vie à essayer de plaire aux autres. Cette onction qui était sur Jésus se caractérisait par la joie, donc c'est difficile d'être oint d'une huile de joie ou d'allégresse, selon les traductions, sans rire régulièrement. Hein. Donc Jésus ne devait rien avoir avec cette image très classique qu'on a parfois, Jésus très sérieux, il devait rire régulièrement et même très souvent. On peut même dire qu'il avait un sens de la fête, et selon les traductions, la traduction Parole de vie rend toujours ce même verset, « Ton Dieu t'a oint d'une huile de fête ». Waouh ! Et cela est confirmé par l'Écriture dans un verset tel que celui de Luc 20, 21. À un moment donné, il est dit que Jésus, il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Si vous regardez dans le dictionnaire, cette idée de tressaillir, c'est... Il y a un mouvement du corps qui va avec. C'est pas, hop, j'ai tressailli. Non, ouais, j'ai... La Bible du semeur traduit le même passage au lieu de tressaillir. Il fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Vous imaginez tressaillir de joie ou être transporté de joie, ça dépasse largement le cadre du simple sourire. Il y a une action du corps. Tu es transporté de joie. Ouah ! Le gars, il est plein de joie. Tu es transporté de joie. Ouah ! On est transporté. Amen. Donc, on veut voir de plus en plus de personnes transportées au milieu de nous. Amen. Et il nous est dit aussi que Jésus faisait ce qu'il voyait le Père faire. Parfois on se dit, ouais, Jésus, bon, il est un peu excité, mais enfin le Père là-haut sur son trône, il reste toujours digne. Tout dépend de ce qu'on entend par être digne. Hein. La Bible nous dit que l'Éternel lui-même a de la joie au point d'avoir lui aussi des transports d'allégresse. Sophonie 3.17, il devait jouer du sax celui-là. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu le Père a des transports d'allégresse. Amen. Donc de plus en plus, il nous faut des réunions où on a des transports d'allégresse. Il est dit des justes aussi, psaume 68.3. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Donc ça concerne Jésus-Christ, ça concerne Dieu le Père, et ça nous concerne nous, si nous sommes les justes, amen, sanctifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. On est appelés à avoir des transports d'allégresse. Donc c'est difficile pour moi de ne pas bouger, excusez-moi, pendant ce genre de message. Donc Jésus n'avait pas grand-chose à voir avec certains clichés religieux qui sont donnés de lui. Il devait rire, être un joyeux vivant. Non pas dans le sens qu'on entend dans ce monde, le joyeux vivant c'est automatiquement quelqu'un qui pêche beaucoup, non, loin de là. Le chrétien peut marcher dans la pureté tout en ayant un esprit de fête qui lui donne plus de joie que ne ressent le pécheur lorsqu'il se livre à son péché. Amen. Il y a plus de joie à être dans le vin nouveau que de se saouler la gueule. J'ai cherché un autre mot, il y en a d'autres qui est venu, excusez-moi. Alors, selon l'Écriture, Jésus a oint à leur tour ceux qui viennent à lui. C'est pour ça que nous sommes les chrétiens et les oints. Il est dit dans Ésaïe 61.3, « Il m'a oint pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, l'onction qui était sur Jésus-Christ. Les chrétiens, de par la nouvelle naissance, accomplie dans le Saint-Esprit, sont des oints. » Ils sont loin d'une onction précise, écoutez bien, de la même caractéristique que l'onction de Christ. Nous sommes loin, non pas de n'importe quelle onction, nous sommes loin au départ d'une huile de joie. Or, l'image classique du chrétien, c'est quelqu'un de très sérieux et de très coincé. Vous êtes d'accord avec moi? L'image classique que la plupart des gens ont du chrétien, c'est de tout sauf quelqu'un qui est loin d'une huile de joie. On ne sait pas de quoi il est loin, mais... Alors comprenons aussi que lorsque nous laissons s'en aller du milieu de nous la joie, on laisse s'en aller l'efficacité de l'onction. C'est intéressant ça. C'est pas l'onction qui part parce qu'elle reste avec nous. Dieu ne se repent pas de ce qu'il nous a donné, mais c'est son efficacité. Selon la suite d'Ésaïe 61.3, il nous est dit que ceux qui marchent sur les traces de Christ, les chrétiens, ont revêtu en Christ un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors si vous êtes venu dans ce lieu avec un esprit abattu, vous savez avec quoi vous allez ressortir? Amen. Alors peut-être que vous allez avoir des transports d'allégresse. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Ok. Et moi je prie qu'il y ait des transports d'allégresse pendant ce week-end. Alléluia. Parce que ce n'est pas de n'importe quelle onction dont nous voulons être oints. C'est de la même onction dont était oint Jésus-Christ. C'est alors que nous méritons notre titre chrétien. Nous marchons dans la même onction. Et il était oint d'une huile de joie, d'une huile de fête. En nous laissant ravir notre joie, on se laisse ravir l'efficacité de l'onction qui est en nous. Et le diable sait exactement ce qu'il fait lorsqu'il met toutes sortes de problèmes et d'occasions d'être dépressif sur notre chemin. Il veut stopper l'efficacité de l'onction qui est dans nos vies. Une église trop calme, qui a peur d'avoir des transports d'allégresse, a un sérieux problème de présence du Saint-Esprit. Or, la joie est indissociable du royaume de Dieu. Romains 14, 17, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas 36 choses, il nous est dit, qu'est le royaume de Dieu, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit, justement, s'est répandu le jour de la Pentecôte, il s'est répandu selon la nature de l'onction de celui qui nous a acquis, si je peux dire, le droit à cette mesure supérieure d'esprit. Une mesure qui ne pouvait pas être répandue sous l'Ancienne Alliance. Elle ne pouvait être répandue qu'avec la venue de Jésus-Christ. Et ce Saint-Esprit s'est répandu le jour de la Pentecôte sous la forme, justement, d'une huile de joie. C'est juste la suite logique des choses. C'est pourquoi une des expressions du Saint-Esprit est ce que l'on appelle le vin nouveau. Et je sais qu'il y a eu des excès dans ce domaine également, mais il y a des excès dans toutes les vérités de l'Écriture qu'on peut prêcher. Amen. Ça ne doit pas nous faire remettre en question la vérité de l'Écriture. Amen. Il y a des excès dans la prophétie. Est-ce qu'on doit arrêter de prophétiser? Il y a des excès dans la démonologie. Il y a des excès dans la prospérité. Est-ce qu'on doit arrêter de croire que Dieu nous veut prospère? Amen. Simplement, il faut trouver l'équilibre, le milieu de la route. Qu'est-ce qu'on appelle le vin nouveau ? Eh bien, cette onction, toujours répandue le jour de la Pentecôte, qui s'est accompagnée de manifestations semblables à celles qu'ont des hommes ivres de vin. Vous connaissez tous ces passages, Actes 2:2. Il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu. Elles s'opposèrent sur chacun d'eux. Amen. Et ensuite, il s'avère que les disciples ont eu un comportement pas très classique, voire pas très sérieux à vue humaine, car plusieurs des témoins de la scène se sont exclamés « Ils sont pleins de vin doux ». En d'autres termes, ils ont bu. Donc, pour pouvoir rendre ce témoignage, il fallait qu'il se passe quelque chose. Amen. Quelque chose qui décontenance les gens, parce qu'il est dit que certains y trouvaient ça bien, d'autres y critiquaient, et d'autres ne savaient pas quoi penser. Et lorsque le Saint-Esprit se manifeste comme cela, il y a toujours les gens dont le cœur est ouvert, ils acceptent, même si ça change leur conception, parce qu'ils reconnaissent que le principe de la repentance, c'est de changer sa conception. Il y a ceux qui le rejettent, et puis il y a ceux qui sont sceptiques, et puis ils vont se décider dans les jours qui suivent. Amen. S'ils vont reconnaître que ça vient de Dieu ou pas. On dit des gens que l'on voit qu'ils ont bu en général parce qu'ils ont l'air saouls, parce qu'ils n'ont pas une joie normale, ils sont transportés d'allégresse. Il est dit dans Zacharie qu'en conséquence de la visitation de Dieu sur son peuple, Zacharie 17, leur cœur aura la joie que donne le vin. Psaume 5, 12, et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Qui se confie en Dieu ce soir ? Donc la suite, c'est qu'on doit se réjouir. Amen. D'une manière ou d'une autre. Et ceux qui aiment ton nom s'aiguilleront en toi. Cette onction de joie a caractérisé la première église. Il est dit des disciples qu'ils étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Ça allait en même temps. Parce que l'onction, c'est l'Esprit. Et cette onction, c'est une onction de joie. Alors, je voudrais bien nous aider à réaliser que l'onction de joie est liée à la délivrance. Il est dit « Quand l'Éternel ramena les captifs » dans Psaume 126, 2, « Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. » Alors on dit parmi les nations « L'Éternel a fait de grandes choses pour ceci. » L'onction de joie est liée à la délivrance. Ésaïe 61, 1. Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction, c'est une autre traduction. Il m'a envoyé proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur délivrance. Un autre passage nous montre le rapport étroit délivrance-joie, Ésaïe 61:10. Je serai plein de joie, donc il n'a pas un peu de joie, il est plein de joie. L'Éternel en sera la source, j'exulterai à cause de mon Dieu parce qu'il m'aura revêtu des habits de la délivrance. Ouh! Un point important ce soir, la délivrance et la joie vont ensemble. Il y a une onction de joie qui est liée à la délivrance. Parce que tout d'abord, mais ça c'est facile, parce que la joie est la conséquence de la délivrance. Quelqu'un qui a été délivré de ses ennuis et de ses adversaires est naturellement joyeux. Vous êtes d'accord avec moi ? Tu avais un découvert à la banque, pas possible, quelqu'un vient et te fait une super offrande, en général tu ne tires pas la tête. Hein ? On est d'accord, moi, que tu sois maso. Ok, donc la joie au départ, mais ça c'est facile. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, lorsqu'ils sont bénis, parfois ils disent merci mon Dieu. Bon, ça c'est facile, ok. Mais nous devons réaliser que ça marche aussi dans l'autre sens. Et ce deuxième point est plus important à retenir ce soir que le premier. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'entretenir une ambiance de joie facilite la délivrance. Écoutez, l'apôtre Paul, il dit « Soyez toujours joyeux ». Excusez-moi, mais humainement parlant, c'est impossible d'être toujours joyeux. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est impossible. Il y a trop de raisons dans ce monde pour perdre sa joie. Donc, le Seigneur, il a une autre conception de la place que doit avoir la joie dans notre vie. Amen. La joie, c'est plus un état d'esprit qu'un sentiment. C'est pour ça que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Alléluia. Et quand je sens que l'adversaire il veut me voler ma joie et que je comprends ce qu'il est en train de faire, je comprends son plan, il veut me voler l'efficacité de mon onction, eh bien peut-être que j'ai le choix de garder ma joie quand même au milieu des épreuves qui sont toutes les causes que Dieu envoie sur mon chemin pour monter justement ma joie. Je ne sais pas si vous me suivez. La joie, c'est donc un état d'esprit. Amen. Ça me rappelle, je crois, c'est Kenneth Hagin qui dit qu'un soir, je crois que c'est le diable en personne qui lui est apparu. Et il s'est dit que tout son être avait envie d'avoir peur. Il avait même la chair de poule. Il s'est forcé à rire. Alléluia. Et c'est là que le diable, il est parti. Là, il ne pouvait pas dire, « Seigneur, si c'est ta volonté que j'ai la joie, envoie !» Non, là, ce n'est plus un moment d'ailleurs poser ce genre de questions à Dieu. C'est le moment de garder la joie qu'on a et de la faire fonctionner d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui fait la différence avec le chrétien charnel qui marche par ce qu'il sent et le chrétien qui marche par ce qu'il croit. Alléluia. Parce qu'il est humainement impossible d'être toujours dans la paix et d'être toujours dans la joie. Et pourtant, l'Écriture nous dit « Soyez toujours joyeux ». Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Christ. Alléluia. Dans la paix, il y a des moments où on la sent, il y a des moments où on ne la sent pas, mais on peut la garder quand même. Ouh ! Plus le diable veut empêcher une personne de saisir les grâces de Dieu, plus il essaie de la plonger dans la tristesse, voire la dépression. Néhémie a dit au peuple qui se laissait aller à la tristesse, à l'écoute de la lecture de la loi, « Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi, et humainement parlant, c'était tout à fait logique, amen. Et voyez-vous, dans la vie, il y a des raisonnements qui sont humainement logiques et qui sont spirituellement illogiques. Amen. Et la Bible dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, dit le Seigneur. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de revêtir de plus en plus la pensée de Christ. Moi, j'ai des tas de bonnes pensées qui pourtant ne sont pas la pensée de Christ. C'est ça qui est le plus subtil. Quand on a une mauvaise pensée, on sait que ce n'est pas la pensée de Christ. Mais quand on a une bonne pensée, on a tendance à penser que parce qu'elle est bonne, c'est la pensée de Christ. Or, toutes les pensées humainement bonnes ne sont pas les pensées de Christ. Alléluia. Tu peux avoir un super plan pour ton futur, et c'est tout sauf ce que Dieu veut pour ton futur. Non, si c'est un super plan, peut-être les gens te diront, mais c'est bien, tu vas aller bâtir un hôpital en Afrique, on est derrière toi, on va même te financer. Mais il y a quelque chose au fond de ton cœur qui dit que Dieu t'appelait à faire autre chose. Donc tu n'es pas justifié par cette pensée qui était humainement bonne. Amen. C'est l'apôtre Pierre qui entend Jésus lui dire, son ami Jésus, qui lui dit qu'il va être crucifié. Eh bien, il a une bonne pensée humaine. C'est Seigneur, ça ne va pas t'arriver parce que moi, je vais me mettre au milieu pour que ça ne t'arrive pas. La plupart d'entre nous, peut-être, on aurait réagi de la même façon quand vous apprenez qu'il va arriver un problème à la personne que vous aimez. Alléluia. Et Jésus se retourne au lieu de lui dire « Merci Pierre, vraiment alors, vraiment, je suis touché. Arrière de moi Satan, oh !» Comme je le dis souvent au pasteur, si tu fais ça dans ton église, il n'y a plus personne demain. avec la susceptibilité des gens dans nos assemblées évangéliques. Mais ce gars, il continue à suivre Jésus. Amen. C'est pas ça qu'il arrête. Arrière de moi, Satan. Seigneur Jésus. Mais il a décidé de garder, alléluia, ce qu'il avait de plus précieux, Jésus, amen, malgré cet élément qui venait là, se mettre au milieu. La joie a un pouvoir. La joie de l'Éternel, ajoute Néhémie, ne soyez pas dans la tristesse, car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc la force semble être liée à la joie. Donc lorsque le diable, je le répète encore une fois pour qu'on comprenne bien, il nous fait perdre notre joie, il nous fait perdre notre force. Et donc, quelque part, il nous fait perdre notre autorité. Amen. Vous savez, le diable, il ne se déplace jamais pour rien. Ok ? Il a toujours un plan derrière tout ce qu'il fait. Il a toujours un plan qui va beaucoup plus loin que le problème même qu'il crée. Quand il amène des gens à divorcer, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir un divorce de plus. Hein. Il en a assez, ok ? Il en a assez de plaisir, ok? Mais il sait tous les gens qu'il va toucher en conséquence de cela. L'église, la société, les enfants. Le diable, il travaille par ricochet. Il faut qu'on arrive à voir plus loin que lui. Est-ce que vous me comprenez? Il faut qu'on arrive à voir plus loin que lui quand il nous attaque, au lieu de juste voir l'attaque à l'instant. Et le sujet de cette attaque. Alors, notre attention est mobilisée par le sujet de l'instant, mais lui, le diable, il voit beaucoup plus loin. Donc, la joie a un pouvoir. Ouais. Elle a une force. Nous voyons là, donc, dans cet enseignement, que la joie est aussi un choix. C'est une vérité à réaliser pour chacun de nous. Choix que l'on doit faire face aux nombreuses raisons que nous avons de se laisser aller au découragement. La délivrance produit la joie, mais bibliquement, la joie produit la délivrance. Alors peut-être que vous avez eu des délivrances et vous avez envie d'être dans la joie, c'est très bien, mais ça c'est très facile pour chacun de nous, alléluia. Mais peut-être que vous avez besoin de délivrance et il faut que vous vous placiez dans la joie. Et ça c'est moins facile parce que vous n'avez pas de sujet humain pour être dans la joie. Vous n'avez que votre foi. Je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Ce verset je le cite souvent à travers mes voyages pour faire comprendre que le psalmiste, lorsqu'il dit cela, à l'instant où il le proclame... Loué soit l'Éternel, il est entouré de tous ses ennemis. Donc il n'a aucune raison humaine de s'exclamer loué soit l'Éternel. Il a plutôt envie de dire à ma mamie, il y a tout ça qui me tombe sur le dos. Seigneur, fais quelque chose. Vous avez remarqué qu'il y a des prières qui ne marchent pas? Alors quand ça ne marche pas, il faut changer de prière. Non, vous avez remarqué ou il n'y a que les miennes qui parfois ne marchent pas? Je me suis dit, je suis tombé dans l'église la plus spirituelle de la France. Là. Ils vont tous prier pour moi à la sortie. Il y a des fois, ça ne marche pas. C'est comme si Dieu nous dit, bon, maintenant, change ta manière de prier. Parce que ça ne marche pas. Alléluia! Vous recevez quelque chose ce soir? Tout le monde suit? Pincez votre voisin pour être sûr qu'il suit, là. Pas trop fort, quand même. Allez, allez! Il y en a qui se mettent à l'écart, comme ça personne ne les pince. Donc la joie est une attitude de victoire. La Bible nous dit que Dieu se rit dans les cieux. Vous voyez, là encore, il y a une image de Dieu classique qui tombe. Dieu se rit, et la Bible va encore plus loin, il se moque de ses ennemis. Donc il y a une tactique de combat spirituel à revenir à la joie. Si Dieu rit, rien de tenant que son esprit agissant à travers nous nous fasse rire ou veut nous replonger dans la joie. Dieu est un Dieu de joie, il se rit du méchant et nous amène à la victoire sur nos ennemis en nous faisant rire face à nos adversaires et à nos problèmes. Un jour, alors que je dirigeais, je crois que c'était à l'époque des séminaires à Mâcon, je dirigeais un atelier et certaines manifestations de l'esprit commençaient à se produire et je remarquais qu'à l'instant où je disais que Satan était vaincu ou qu'il était foulé aux pieds, des gens répartis dans différents endroits de la salle, qui ne se connaissaient pas, se mettaient soudain en même temps, sous l'onction de l'esprit, à éclater de rire. Moi, je riais pas, moi. C'est moi qui produisais ça, ça ne me faisait pas rire, je trouvais ça bizarre parce que je ne comprenais pas le principe, alléluia. Il semblait démarrer au quart de tour. Chaque fois que je parlais de l'abaissement de Satan face à Christ, c'était l'Esprit de Dieu en eux, alléluia, qui les faisait prendre la victoire sur les ténèbres, se réjouir à la proclamation de ce que Satan avait été vaincu. L'Esprit exprimait à travers eux le rire même de Dieu face à ses ennemis. Donc il y a une manifestation surnaturelle de la joie liée au combat spirituel. C'est pourquoi une personne peut se trouver à rire sous l'onction de joie face à une situation dramatique où il n'y a humainement pas de raison de rire. Ce rire peut être l'assurance de Dieu de la victoire face à la logique humaine de la défaite. Alors parfois le Saint-Esprit te saisit et il te fait rire naturellement, c'est-à-dire que tu n'as pas forcé pour prendre la victoire vis-à-vis d'une situation. Et d'autres fois, il te dit simplement, voilà ce que tu vas faire dans cette situation. Tu vas faire le choix de te moquer de tes ennemis à l'instant où ils veulent te terroriser. Qui est confronté à des ennemis en ce moment? Ok? Qui veulent vous impressionner, qui veulent vous intimider. Donc, humainement parlant, la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de rigoler, parce que ce n'est pas marrant. Peut-être votre situation n'est pas marrante du tout, ok? Et c'est pour ça que parfois, selon les réunions, il y a des gens qui prennent très mal d'entendre des personnes se rouler par terre sous l'onction de rire. Ils le prennent très mal, ils le prennent personnellement comme si on se moquait d'eux, parce qu'ils ne comprennent pas que le Seigneur est en train de travailler. Un de mes amis, un serviteur de Dieu, est venu à Toulon pour prêcher un message assez particulier sur ce que moi j'appelle la débabylonisation. Et pendant le week-end où il est venu prêcher à Toulon, il a été éprouvé avec sa fille qui a eu un problème de ganglion dans sa gorge et qui a dû rentrer à l'hôpital. Alors, le dimanche matin, il montait sur l'estrade, il venait de téléphoner chez lui, il apprenait que sa fille rentrait en urgence à l'hôpital. Les médecins commençaient à déclarer qu'il y avait beaucoup de chances que ce soit cancéreux. Au bout d'un moment, ils ont dit qu'il y avait 90% de chances que ce soit cancéreux. Ils commençaient à préparer la maman. Et lui, il attendait simplement de finir sa réunion pour pouvoir remonter chez lui et voir tout ça de plus près. Et lorsque nous sommes revenus d'une réunion à l'église de Nice, tous les deux dans la voiture, je tiens à vous dire que l'ambiance n'était pas la joie. Je sais ce que c'est que de monter sur une estrade alors que ton enfant il est à l'hôpital, ok ? T'as intérêt de savoir en quoi tu crois. À un moment donné, je lui ai dit quelque chose et je n'ai même pas pu finir ma phrase dans la voiture que le rire de l'esprit est venu sur moi. Et j'ai commencé à éclater de rire au point de pleurer de rire, au point d'être presque obligé d'arrêter la voiture sur le bord de l'autoroute. Je pleurais de rire. Rire qu'il a attrapé à son tour. Vous savez que c'est communicatif, l'Esprit de Dieu. Et c'est une chose qui m'était arrivée très rarement. Mon épouse, ça lui arrive régulièrement d'éclater de rire sous l'onction de l'Esprit. Moi, je suis le genre de gars beaucoup plus sérieux. Mais sous cette forme-là, ça a dû m'arriver deux ou trois fois. Lorsqu'il est rentré chez lui, ils ont eu quelques jours toujours éprouvants, pénibles, dans l'incertitude de ce qui allait réellement arriver à leur fille. On priait de notre côté aussi pour elle. Mais il me revenait continuellement à l'esprit ce moment de rire incontrôlable dans la voiture. Je me suis dit, mais c'est pour quelque chose, sinon Dieu, il est cynique. Je me suis dit que si Dieu m'avait visité ainsi, c'était pour dire, la victoire est assurée malgré ce qui semble être à vue humaine. Et lorsque je l'avais au bout du fil, un jour il m'a dit, tu sais, c'est très dur cette situation, mais il me revient sans arrêt ce rire. Pourquoi on a éclaté de rire comme ça, mais au point de pleurer tous les deux de rire dans la voiture, alors qu'humainement parlant, ça ne tenait pas debout cette histoire. Et en quelques jours, toute la situation s'est retournée pour la bénédiction de cette petite fille. De proclamer que c'était à 90% cancéreux, les docteurs ont commencé à dire qu'il y avait 90% des chances finalement et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi que ça ne le soit pas. Et puis au bout d'un moment, ils l'ont relâché, il n'y avait plus rien. Et ils ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait plus rien. Nous, on a nos formes parfois de prière. On voudrait chaque fois, j'impose les mains, je dis au nom de Jésus, sois guéri, et puis c'est réglé. Okay? Mais souvent, on le fait, il ne se passe rien. À la rigueur, le gars, il va encore plus mal. Parce qu'il y a plusieurs formes, il y a plusieurs directions de l'esprit, ok? Une fois tu es là, tu me, la personne te prend la tête au nom de Jésus. Ah, c'est encore plus mal la tête. C'est sûr que si on est fermé aux diverses manifestations de l'esprit, qu'on s'en tient simplement à l'imposition des mains, on risque d'être beaucoup limité dans les résultats qu'on va voir. Amen. Je crois que c'est Kenneth Hagin aussi, j'aime bien le citer, qui un jour s'est retrouvé devant un homme qui avait une tumeur. Et lorsqu'il s'avance, il lui impose les mains d'une manière normale, il prie pour lui, il n'y a rien qui se passe. Et le gars va se rasseoir, et au bout d'un moment, il entend le Saint-Esprit qui lui dit « Fais-le avancer de nouveau et donne-lui un coup de poing dans la tumeur. » Oh, il a fait comme s'il n'entendait pas. Et puis finalement, la voix de l'esprit était tellement insistante qu'il a fait avancer cet homme, il a donné un coup de poing dans la tumeur et la tumeur a disparu instantanément. Ok ? Alors, ce n'est pas pour prêcher une nouvelle doctrine. Maintenant, vous allez changer votre manière de prier ici. Vous n'imposez plus les mains, vous ne donnez que des coups de poing. Alors, si vous allez raconter ça autour de vous, ce n'est pas ce que j'ai prêché, d'accord ? Amen ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des manières classiques qui nous sont données dans l'Écriture, et puis il y en a d'autres qui se trouvent dans l'Écriture, qui, dans lesquelles le Seigneur nous dirige moins régulièrement. Mais si on est à l'écoute du Seigneur, quand c'est le bon moment, bien dirigé par Dieu, il n'y a que ça qui marche. Et tout le reste que tu vas essayer, bien ça ne va pas marcher. Et là, j'en ai été témoin aussi. Alléluia. Ça me rappelle Michael Réal, un jour, lorsque nous étions à l'église de Nice, si tu te rappelles, Michael, il y a un gars, il témoigne, mais le témoignage, c'était triste, parce que ce qui lui était arrivé, personne n'avait envie de rire. Et Michael s'avance, justement, pour dire, on va prier pour toi, pour ta consolation, etc. Et il lui éclate de rire au visage. Moi, je ne savais plus où me mettre. Et alors depuis, je suis plus sûr qu'il faut le mener avec nous. Quoi. Alors j'espère que demain, il se tiendra bien. Et il éclate de rire et le gars, il tombe par terre et il commence à rire et à rouler à son tour. Ça, ce n'est pas une manière conventionnelle pour guérir les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Alors il vaut mieux pas être coincé. Mais il s'est passé de grandes choses dans la vie de cet homme. Alléluia. Son épouse, je me rappelle, j'avais prié pour elle, elle avait besoin d'être délivrée, vraiment, elle avait un grand problème de délivrance. Quand je lui ai imposé les mains, il ne s'est rien passé. Quand je lui ai soufflé dessus, elle est tombée par terre et elle entendait les démons qui sortaient les uns après les autres en donnant leur nom. Et moi, je ne les entendais pas. Elle nous a raconté ce qui s'est passé après. Et c'est vrai que dans l'Écriture, dans Ésaïe, il y a un verset qui dit « Un souffle les emportera ». Dans une parole particulièrement ouinte, le bonjour, alléluia, peut faire plus d'effet et avoir plus de résultats que toutes les impositions des mains faites d'une manière mécanique. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, continuons à imposer les mains aux malades, continuons à faire l'onction d'huile, alléluia. Mais surtout, ne le faisons pas d'une manière mécanique. Et si entre-temps, le Seigneur nous dirige vers des voies différentes, eh bien, soyons à l'écoute de son esprit, parce que ce que nous voulons après tout, c'est que notre christianisme y marche. Et vous avez remarqué, il y a une bonne partie souvent qui ne marche pas. Moi, j'ai envie de voir mon christianisme marcher, je ne sais pas pour vous, et marcher de plus en plus. Je sais qu'il marche, mais il ne marche pas encore comme il est prévu dans l'Écriture qu'il marche. Amen. Alors, nous recevons quelque chose sur la joie ce soir. Vous n'avez pas l'impression qu'on veut continuellement vous voler votre joie? Le diable travaille à voler notre joie. Nous devons donc apprendre à garder notre joie. Pourquoi elle ne reviendrait pas dans certaines vies dès ce soir? Alléluia. Et parce que nous avons cette habitude d'attendre que les choses viennent à nous. J'attends que ma guérison vienne à moi. J'attends que la paix vienne à moi. J'attends que la joie vienne à moi. Et parfois, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Mais pas tout le temps. Et pourquoi j'irai pas vers ma paix? Pourquoi j'irai pas vers ma guérison? Pourquoi j'irai pas vers ma joie? Et je termine avec cette autre précision concernant l'onction qui caractérisait le ministère de Jésus. C'est que la puissance de l'onction de joie est liée à un facteur: aimer la justice et haïr l'iniquité. Dans un autre point qui est lié à l'efficacité de l'onction, c'est aimer la justice et haïr l'iniquité, d'après ce verset que nous avons cité tout à l'heure, où il est dit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité ». C'est pourquoi, ok? Ça ne vient pas tout seul. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. C'est parce qu'il a aimé la justice et haï l'iniquité que Jésus a été oint. Plus nous voulons bénéficier de l'onction de Christ, je peux dire aussi, plus nous sommes appelés à grandir dans l'amour de la justice et de la haine de l'iniquité. Je crois que beaucoup de gens ont vu l'onction tarir parce qu'ils n'ont pas entretenu cet amour de la justice et de la haine de l'iniquité. Dans nos églises évangéliques, on a besoin de redécouvrir la sanctification. Alléluia. C'est un facteur, c'est vrai, qui a été poussé à l'extrême par certains milieux. Et parfois, ça nous a tellement écœurés que nous, on veut tellement être libres aujourd'hui qu'il ne faut plus qu'on ait aucune obligation. Hein. Vous avez remarqué, on dit oui aux gens, tout va bien. Le jour où on leur dit non, c'est l'apocalypse. Hein. Je crois que c'est une chose que d'aimer la justice. Mais ça n'est une autre aussi que de haïr l'iniquité. Je peux développer le fait d'aimer la justice sans obligatoirement développer le fait d'haïr l'iniquité. Mais les deux vont ensemble. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui aiment la justice, mais qui n'ont pas développé la haine de l'iniquité. Ils aiment la justice tout en ignorant l'iniquité. On l'ignore. Mais il nous est dit de haïr l'iniquité. Où est la nuance? Quand on hait quelque chose, on le combat. Et plus on le méprise, alléluia. Et c'est difficile d'être tenté efficacement par quelque chose qu'on méprise. Quand on méprise l'adultère, ben c'est difficile de tomber dans l'adultère. Est-ce que vous me suivez? Quand on hait et on méprise quelque chose, quand ça vient nous tenter, ça ne nous fait aucun effet. Mais quand on a encore des affinités avec cette chose-là, c'est sûr qu'elle a encore du pouvoir. L'onction qui nous a été donnée est une onction pour combattre. Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui pour faire plusieurs choses. Et chacune de ces choses, que ce soit guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, est la conséquence d'un combat spirituel. C'est la conséquence de la destruction par l'onction des œuvres de l'adversaire. L'onction n'est efficace que chez les combattants, que chez ceux qui haïssent suffisamment le mal pour combattre afin de libérer les captifs. Je crois qu'on finit toujours par être libéré de quelque chose qu'on a appris à détester. Amen. Si je déteste la colère, à un moment donné, je vais avoir assez de maîtrise pour ne plus me mettre en colère. Amen. Si je déteste la médisance, à un moment donné, je vais avoir assez de maîtrise pour arrêter de médire. Alors je crois qu'il y a des choses qu'on regarde comme péché, mais on n'est pas arrivé au stade où on les déteste. Et c'est pourquoi elles ont encore du pouvoir sur nous. Or, l'onction est efficace, d'après ce verset, lorsqu'on aime la justice et qu'on hait l'iniquité. Alléluia! Et les chrétiens, eh bien, ils marchent sur les traces de Jésus en aimant la justice et en haïssant l'iniquité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est sur notre chemin, là, qui régulièrement nous tente ou nous éprouve, mais on n'a pas assez développé de haine pour cette chose-là. Vous savez, les chrétiens, ils sont appelés à aimer leur prochain, à aimer tous les hommes sur cette terre, mais on est appelé à détester des choses aussi. Amen. On est appelé à détester les œuvres du diable. Ésaïe 61:8, car moi l'Éternel, j'aime la justice et je hais la rapine avec l'iniquité. Alléluia. Ce soir, on veut, à travers ce message, prendre connaissance d'une manière plus profonde, j'espère, de l'onction qui réside sur nous. Et je dirais même de la manière dont cette onction est pleinement efficace. Chaque fois que nous nous laissons ravir notre joie, et ça nous arrive à tous, eh bien nous nous laissons ravir notre autorité. Amen. Parce que l'onction dont nous sommes oints n'est pas n'importe quelle onction. C'est pas l'onction dont était oint Jean-Baptiste. Même s'il était oint du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a plusieurs formes d'expression, il a plusieurs onctions. Donc nous, ce qui nous importe, c'est l'onction par laquelle nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes nés de nouveau par l'onction qui résidait sur celui qui nous a fait naître de nouveau, Jésus. Alléluia. Il est bien de connaître la nature de l'onction qui est sur nous. Quelqu'un dira peut-être, ah moi j'ai l'onction qui était sur Jérémie. Non, ce n'est pas l'onction qui était sur Jérémie. Dieu peut te donner une partie de l'onction qui était sur Jérémie, mais avant tout, ton onction, c'est celle qui était sur Jésus. Moi, j'ai l'onction qui était sur Moïse. Non, peut-être une des expressions de l'onction qui était sur Moïse. Jean-Baptiste, il avait l'onction qui était sur Élie, ok? Mais nous, nous sommes supposés avoir l'onction qui était sur Jésus. Amen. Et cette onction, c'est une onction de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains quelques instants, Seigneur?